Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je dois à Clément Sanchez et Dominique Bazin de pouvoir m'exprimer ici. Donc c'est une opportunité rare, je pense, de présenter ce qu'on peut faire avec le rayonnement synchrotron, notamment sur les tumeurs cérébrales et dans le cadre des épilepsies. J'ai emprunté cette diapositive à Bill Tomlinson, qui était un des pionniers des applications médicales du rayonnement synchrotron. Un siècle sépare ces deux photos, effectivement. À gauche, le tube de Crookes, très utilisé. Ceci, quasiment quelques mois après la découverte des rayons X. On savait déjà faire un outil diagnostique avec les rayons X. 100 ans plus tard, on construit des machines comme l'anneau synchrotron de Grenoble, qui est l'anneau synchrotron le plus important d'Europe, sur lequel notre équipe est installée. Les deux outils produisent des rayons X, et qu'on voyait ici à gauche, la radioprotection n'était pas très développée à l'époque. Et à droite, par contre, l'essentiel du volume de cette machine, c'est de la radioprotection, avec des électrons qui sont entraînés à vitesse relativiste, comme on le verra sur un schéma. Ici, voilà ce qu'on peut faire avec des sources X, disons de petite taille, telles qu'elles ont été utilisées par exemple pour le musée au Louvre pour analyser des peintures, ou aussi pour faire de divers types d'imagerie. On peut aussi utiliser le synchrotron pour faire de l'imagerie beaucoup plus fine. Enfin, on a une quantité d'applications que l'on qualifiera de biomédicales et de médicales, indépendamment des applications de cristallographie et de structure de la matière. Le rayonnement synchrotron est produit par des électrons qui, lorsqu'ils sont accélérés à vitesse relativiste, émettent dans la direction sur les tangentes, ici de cet aimant de courbure, émettent un faisceau de photons, dont les caractéristiques sont les suivantes. Ici, voici un spectre tel qu'on l'observe sur notre ligne médicale. La caractéristique étant que le flux est très important, c'est-à-dire comparé à une source conventionnelle ici en bas, on a énormément de photons et on peut sélectionner des bandes d'énergie grâce à des systèmes optiques que vous avez vus, ou bien utiliser d'emblée plein flux dans certaines applications qu'on va voir. Donc ici, le plan de la ligne avec la salle de microfaisceau. Ici, plus haut, la salle où on a réalisé les angiographies et on réalise en ce moment des essais de radiothérapie clinique. Donc, ce qui a été attaqué du point de vue médical, ce sont les gliomes qui sont un enjeu thérapeutique important. 10 à 15 nouveaux cas par an, 65% des cas, enfin 10 à 15, pardon, nouveaux cas pour 100 000 habitants par an de tumeurs cérébrales. 65% sont des gliomes et là on a différents types de malignité, du grade 1 au grade 4. Ce qu'il faut retenir, sans aller trop dans les détails, c'est que c'est une maladie que l'on ne sait pas guérir. Et en quelques années, on a eu à peine quelques mois de mieux, d'espérance de vie gagnée, au prix aussi de traitements qui peuvent être lourds. La chirurgie est rarement possible, il faut faire une association radiochimiothérapie. Et voyez ces courbes de survie qui montrent que la survie médiane est relativement faible, et se situe de l'ordre de 15 mois à 1 an. Enfin, pardon, 15 mois, c'est la durée moyenne de survie. Donc, on a une radiothérapie qui est utilisée en général, délivrée en 30 fractions de 60 degrés. Donc, ces tumeurs cérébrales sont évidemment très destructrices et il me semble légitime de développer toute méthode susceptible de les traiter. Donc, on a travaillé là-dessus avec le rayonnement synchrotron. On a défini et réalisé tout ou partie, trois méthodes de radiothérapie. La première qui est la radiothérapie que l'on qualifiera de stéréotaxique, par rayonnement synchrotron monochromatique. On sélectionne une énergie, une longueur d'onde optimale, on verra comment. Puis une radiothérapie définie par microfaisceau qui consiste cette fois-ci à réaliser un fractionnement spatial avec un très haut flux. Et enfin une radiothérapie par minifaisceau. Tout d'abord, la radiothérapie stéréotaxique par rayonnement synchrotron, on va se positionner dans cette gamme d'énergie, c'est-à-dire environ inférieure à 100 keV, où l'interaction des photons avec la matière est essentiellement due à l'effet photoélectrique. Ici, si je place l'iode, ici on voit qu'elle est ici à ce niveau-là, les tissus ont un Z beaucoup plus faible, dont l'interaction avec les tissus sera beaucoup plus faible aussi. L'iode est très absorbante, on va attraper beaucoup de l'énergie sur laquelle que l'on va délivrer. À des énergies plus hautes, on a l'effet Compton qui devient prédominant, et enfin, aux très hautes énergies, on a les productions de PR. Ici, très rapidement, un aperçu de ce qu'est la radiothérapie par microfaisceau. La radiothérapie par microfaisceau date de travaux de recherche initiés par la NASA pour étudier les effets des particules de haute énergie sur les vols spatiaux. Et donc, ce que l'on a pu démontrer à cette époque, c'est qu'une particule aussi énergétique soit-elle qui traversait un tissu vivant pouvait, si l'espace, ou disons si la largeur du faisceau était relativement faible, ne laisser que peu de traces au long cours, alors qu'une énergie beaucoup plus faible, ici 140 degrés seulement, mais sur un millimètre, détruit le tissu. Donc cet effet dose-volume a été mis en œuvre pour réaliser des radiothérapies, et seule une source synchrotron peut réaliser ce type de rayonnement avec un très haut flux sur des espaces très faibles. Donc voici le schéma d'une radiothérapie ou telle qu'elle est réalisée habituellement. Donc, une bande qui va être définie par le mouvement de l'objet à irradier dans un faisceau qui est ponctuel, en fait. Un espace entre ces bandes qui va définir l'espace qu'il va falloir respecter, de tissu sain qui va complètement survivre intégralement au traitement. Donc, cette radiothérapie par microfaisceau, elle peut être réalisée en utilisant un faisceau polychromatique dont on utilise l'ensemble des fréquences avec un flux important. La taille utilisée est généralement de 25 à 50 micromètres. L'irradiation est toujours fractionnée de très haut flux. Évidemment, on met en avant le fait que le tissu sain est plus résistant à ce type d'irradiation. Et donc, on a un effet préférentiel, semble-t-il, de la radiothérapie microfaisceau sur les vaisseaux. Ici, une autre méthode de radiothérapie qu'on a définie aussi et testée dans l'équipe, dite par mini-faisceau, qui cette fois-ci est censée combiner sur la cible la radiothérapie Champlain, c'est-à-dire un champ complet, une couverture intégrale du volume tumoral, alors que dans le tissu sain avoisinant, on irradie que la moitié du volume, avec des doses aussi qui permettent de bénéficier du fractionnement spatial. Donc je vais revenir sur, après avoir esquissé ces trois modalités, revenir sur la radiothérapie stéréotaxique par rayonnement synchrotron. Donc sur le principe, c'est de charger une tumeur en iode avec un produit de contraste. Enfin, avec un produit de contraste, ça peut être l'iode, mais ça pourrait être aussi gadolinium ou tout élément lourd susceptible de capter l'énergie des photons, réaliser des cartographies de doses. Ici, pour mémoire, les coefficients d'atténuation massique de différents molécules, ici l'iode, le gadolinium et le platine en vert, comparé au tissu mou, on voit qu'on va travailler dans cette zone d'énergie, en dessous de 100 keV, et on va avoir constamment, en dessous de 100 keV, c'est par là, constamment une absorption préférentielle des produits de contraste par rapport au tissu mou. Pour mémoire, les tissus mous ont environ le même coefficient d'absorption que l'eau. Donc ici, ces produits de contraste vont être très absorbants, susceptibles de redistribuer l'énergie dans la périphérie, dans leur propre proximité ou périphérie. Alors ici, on peut déduire, si on fait des calculs simples de simulation de doses ou de doses déposées, on peut voir que sur un mélange d'iode à 10 mg par millilitre, on obtient ici un dépôt d'énergie qui peut être 2,5 fois supérieur à l'absence d'iode. Donc on a un effet de concentration, d'augmentation de la dose, qu'on appelle le DEF, ou Dose Enhancement Factor, qui est valable aussi pour le gadolinium, qui est valable aussi pour d'autres éléments lourds comme l'argent et l'or. Ici, je fais figurer notre molécule de travail qui essentiellement sera l'iode. Donc on a une énergie optimale vers 50 keV, à partir de laquelle, enfin, qui sera la plus utilisable pour délivrer maximum d'énergie là où se trouve l'iode. Historiquement, il est sans doute pertinent de discuter ce point. En fait, Norman était un physicien médical américain, qu'on a pu connaître d'ailleurs, il est mort il y a quelques années, qui avait observé dans le sang des enfants qui subissaient des angiographies des examens d'angiographie sous scopie X, des anomalies des lymphocytes circulants. Ces anomalies ont été connues et citées de longue date, avec peu d'explications, si ce n'est que l'énergie qui est utilisée pour imprimer le film quand elle a traversé le corps humain ne passe pas l'iode, c'est-à-dire ces éléments lourds absorbent l'iode, donc l'énergie reste locale là où l'iode se trouve. Et cette énergie donc est redistribuée dans les cellules qui baignent le sang, où est dissoute le produit du contraste. Et donc l'idée de Norman, c'était de réaliser avec ça une méthode de radiothérapie. Et en fait, il a convaincu un service de modifier un scanner X, de pouvoir le faire tourner le temps qu'il fallait pour avoir une forte irradiation. Il a réalisé un premier essai clinique, mais clairement, au vu et au su des simulations qu'on a vues précédemment, seul le rayonnement synchrotron peut être pertinent pour optimiser l'effet de ce choix d'énergie pour avoir la meilleure énergie possible. Donc le principe, c'est de charger une tumeur avec un élément lourd, d'adapter le faisceau à la taille de la tumeur. La tumeur doit être placée au centre de rotation et on irradie avec un faisceau de basse énergie. Des simulations montrent alors qu'il suffit que cette tumeur soit un peu chargée en iode et on se retrouve avec des profils de doses qui sont facilement comparables à des profils de doses obtenus avec des sources de radiothérapie conventionnelles. Et donc cette équipe avait obtenu sur déjà des tumeurs de chien des augmentations de survie avec des traitements toujours avec ce scanner modifié. Ils ont aussi réalisé quelques essais sur des métastases humaines sans suite de fait, même si les résultats paraissaient très, très encourageants. Aucune machine n'a été adaptée pour faire ce travail. Donc ce travail, on l'a développé en partie sur son incitation aussi. Et on a réalisé un certain nombre d'essais de charge d'iode, enfin de chargement de tumeurs par des produits iodés. Ici, par exemple, un calcul de la dose déposée quand une tumeur est chargée en iode. Ici, on voit une injection intracarotidienne, c'est-à-dire on va optimiser, comme on le verra sur la planche après, le dépôt d'iode dans la tumeur va être très important et donc on va se retrouver avec une possibilité de dose qui va être très importante ici avec une augmentation de la dose qui peut être multipliée par un facteur 6. Ce sont des conditions expérimentales en fait très rares et qu'on n'a pas utilisées chez l'homme mais qu'on a testées sur le petit animal de façon assez extensive avant de passer à l'homme. Donc ici sur cette planche, différentes situations, des injections d'iode et de mannitol par voie jugulaire, c'est-à-dire par voie veineuse. Ici, jugulaire, iode et saline, donc ça c'est en haut. Et en bas, une injection par voie carotidienne d'iode et de sérumphi. Et ici, une injection par voie carotidienne d'iode et de mannitol. Le mannitol agissant comme un hypertenseur qui ouvre localement la barrière hématocéphalique et qui donc va disperser encore plus l'iode. Et là, on a obtenu des concentrations très fortes. Et en fait, quand on a traité ces rats avec ce type d'injection, la dosimétrie était extrêmement violente et le résultat n'est pas très satisfaisant. Donc il fallait régler toutes ces choses-là. C'est ce qu'on en a fait pendant un certain nombre d'années avec des tests divers et variés en situation soit d'injection locale, soit d'injection intracrânienne, intracérébrale. Bref, on a tourné autour de cette idée jusqu'à arriver à la conviction qu'on pouvait réaliser un essai clinique. Ici, donc, un exemple d'augmentation de dose sur une tumeur chargée à 10 mg par millilitre, ce qui est une tumeur, une valeur qu'on n'a jamais atteinte chez l'homme et qu'on n'atteindra vraisemblablement pas, puisqu'au maximum, on arrive environ à 2 à 3, 3, dans les meilleurs cas, 5 mg par millilitre dans les points chauds. Donc, avec iode versus sans iode, on voit clairement qu'on a un dépôt de dose très important, ça sur ce profil, dans une dose relative qui peut être intéressante pour attaquer la tumeur en limitant l'irradiation périphérique. Dans la suite de ces travaux, on avait essayé aussi d'injecter du cisplatine intratumoral. Donc ces injections étaient réalisées directement dans la tumeur. Après, s'être assuré bien sûr que ces tumeurs étaient bien lancées. Ici, on voit tous les témoins qui ne survivent pas, sauf ceux qui ont reçu la chimiothérapie, 6 platines et 15 degrés. Ici, c'est deux courbes, donc c'est deux catégories. Et à l'époque de ce travail, c'était la meilleure courbe de survie jamais obtenue sur ce modèle qui est particulièrement difficile. À ce temps, enfin, donc ça c'était en 2003, j'étais convaincu à ce moment-là, si nous étions capables de reproduire ce type de résultat, ça aurait été un résultat excellent. On en est encore loin, hélas. 30% de survie chez l'homme serait pour l'instant vraiment exceptionnel. Évidemment, quand les nanoparticules sont apparues sur le marché on va dire, thérapeutique ou des essais précliniques, un certain nombre de physiciens ont développé des méthodes ici, toujours utilisant le rayonnement synchrotron, des basses énergies. Une équipe ici à New York a pu réaliser des radiothérapies avec des nanoparticules d'or et obtenir, après des injections par voie veineuse, des traitements de carcinome tout à fait efficaces, donc avec des taux de survie exceptionnels. D'autres tumeurs, comme les gliomes ici, avec des taux de survie très intéressants, mais pour être plus critique, même si ces résultats sont de très bon augure, ils ne se sont pas attaqués aux tumeurs les plus difficiles et il faudrait réaliser des essais comparatifs sur les mêmes animaux, sur les mêmes tumeurs et tout ça, c'est encore à faire. Donc l'essai clinique était envisageable et c'est ce qu'on a souhaité faire. Donc on pouvait, à partir de données in vitro, comprendre qu'on peut réaliser de la photoactivation d'agents de contraste iodés à la suite des essais de Norman, mais aussi de nos essais précliniques, in vitro et in vivo. On a pu démontrer des survies efficaces et à tout le moins augmentées avec une association de rayonnement synchrotron et de cisplatine, avec ces résultats qui étaient plutôt exceptionnels à ce temps-là. L'association rayonnement synchrotron et chimiothérapie est aussi efficace que la radiothérapie conventionnelle et la chimiothérapie aux platines. Donc en soi, il était légitime de tenter un essai clinique. Par ailleurs, on avait déjà réalisé l'irradiation de patients pour réaliser des angiographies coronariennes sur le site et tout prêtait à penser que c'était possible. Un comité extérieur indépendant a pu évaluer la pertinence du projet et le feu vert a été donné en 2005. Le premier patient a été irradié en 2012 et ça vous donne une idée comment dire, de la difficulté de monter un essai clinique de radiothérapie qu'on peut mettre en parallèle avec l'effet de traînée de poudre de l'invention des rayons X avec la scopie qui s'est répandue en quelques mois dans le monde entier. On n'est pas non plus dans le même saut technique et méthodologique, mais on est aussi dans une autre époque un petit peu plus compliquée. Donc cette décision prise en 2005, il a fallu monter le dossier pour avoir l'accord du comité de protection des personnes, l'accord aussi des autorités de santé, AFSAPS devenue ANSM, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui a été particulièrement pointilleuse et qu'il a fallu convaincre de façon précise, définir les procédures, répéter les procédures, tout ça a été réalisé en 2011-2012. La définition était un petit peu antérieure. Et les premiers patients ont été réalisés à l'été 2012, donc dans des conditions de dosimétrie et de sécurité satisfaisantes, en utilisant un système de planification du traitement sur lequel je vais revenir, avec une dosimétrie in vivo peut-être réalisée en imagerie, c'est un peu compliqué, bon, je n'évoquerai pas ces choses-là. Un contrôle de qualité interne puis externe a été réalisé, et enfin un contrat en bonne et due forme signé entre notre CHU et le SRF, qui est donc European Synchrotron Radiation Facility, donc le service européen de rayonnement synchrotron. Le but de l'essai, c'était de valider, démontrer au moins la faisabilité de l'essai, sa tolérance, et définir l'acceptation par le patient d'un traitement par rayonnement synchrotron. Et nous avons pensé et défini des cibles modestes en ne s'attaquant pas d'emblée au glioblastome, ce qui aurait probablement été un échec. On est resté sur des métastases cérébrales pour faire au moins aussi bien que le traitement conventionnel par radiothérapie conformationnelle ou stéréotaxique. Voici l'allure de ce setup expérimental, j'y reviendrai. Une chaise dans laquelle se déplace le sujet qui est mobilisé dans un faisceau fixe, ce qui est complètement opposé au principe de la radiothérapie. Comme le gamma knife ou cyber knife où les faisceaux peuvent être mobiles. Ici, le faisceau est fixe, C'est la cible qui va être déplacée dans le faisceau par des mouvements d'aller-retour, montée, descente ou rotation. Donc il a fallu tester aussi l'équivalence de cette configuration champ large versus champ mince, ici comme le... Ça, c'est le champ qui est utilisé sur notre ligne, c'est-à-dire un petit faisceau plan qui est homogène sur une petite dimension. Et donc, il fallait que ce petit faisceau plan, en mobilisant le patient dans ce faisceau, on ait l'équivalence de dose. Et donc, de très nombreux essais de dosimétrie ont été nécessaires, indispensables pour étayer cette hypothèse et la démontrer. C'est ce qui a été fait ici par des travaux de l'équipe et d'autres physiciens associés. Donc, toutes ces choses-là ont dû être parfaitement modélisées, comprises et démontrées, notamment aux autorités de sûreté nucléaire. Il a fallu monter aussi un logiciel de planification du traitement. Ça, c'était le travail de thèse de Mathias Vautrin. Donc, il faut utiliser la modélisation complète, être capable de modéliser le parcours des photons de la source, c'est-à-dire du niveau de l'anneau qui transportait les électrons jusqu'à l'impact dans le patient en différentes étapes que je ne décris pas, mais ce système-là permet d'aboutir à quelque chose qui est maîtrisé et compris. Donc des simulations ont été faites et vous voyez des temps de calcul relativement longs sur des choses qui ont été réutilisables par la suite. Ça, ce sont pour les données, on va dire, dépendantes de la géométrie, de la topographie de la ligne. Donc ça s'était réalisé sur un logiciel Isogré qui a été adapté d'un logiciel de planification du traitement fourni par la société Dosisoft, qui est à ce jour la seule société en France qui vend ce type de produit et qui le fabrique. Et donc on a pu, avec une convention chiffre, utiliser leur base de logiciel pour installer le nôtre sur la ligne. Donc les simulations après sont faisables dans des temps de calcul plus acceptables et en fait en quelques heures, notre physicien médical attitré, Jean-François Adam, est capable de réaliser une simulation à la demande pour définir donc un ensemble de traitements. Dans l'installation, la voici. Je voulais montrer ici sur cette image les caches qui permettent en fait de définir des tirs en dur, c'est-à-dire le patient va se déplacer sur un faisceau fixe et le cache va se mobiliser avec, de telle sorte qu'on maîtrise complètement la géométrie des radiations et pas un photon qui n'a pas à être tiré sur la cible n'est tiré à côté. Donc c'est vraiment le plus précis possible avec des obligations de sécurité telles qu'on ne pouvait pas réaliser une acquisition ou une irradiation type spiralée. En fait, la sécurité a été mise en avant et c'est peut-être... C'est sûrement une bonne chose. Donc, pour revenir à cette planification du traitement, elle permet de définir une cible. Cette cible doit être couverte par une quantité, une dose de photons convenable. C'est ce qui est réalisé par l'analyse de ces courbes qui permettent de définir les volumes à irradier. Donc, ça a été fonctionnel et c'était une étape fondamentale de cet essai avec ici... le travail réalisé par un médecin qui doit choisir l'isocentre, qui va être le centre du volume à irradier, à partir d'un scanner issu, réalisé dans un service d'imagerie ou dans un service de radiothérapie. On crée un modèle de patient, on définit les zones à éviter, et en réalisant donc tous ces calculs de doses, y compris en tenant compte de la dosimétrie due à l'augmentation de dose de l'ion, on peut définir une distribution 3D de la dose et surtout comment on va la délivrer, sur quel port, c'est-à-dire sur quel angle, quelle hauteur, quelle dose, etc. Toutes ces choses-là ont été définies au mieux pour réaliser ces irradiations. Donc voici un résultat, ici une simulation avec un croisement sur une tumeur qui est visée, donc on peut visualiser l'ensemble des ports. Donc en résumé, ce protocole il a été réalisé sous la promotion du CHU de Grenoble, c'est-à-dire c'est le CHU qui engage sa responsabilité. L'investigateur principal est Jacques Balosso, qui est un radiothérapeute qui est chef de département dans ce CHU. Les médecins associés, Jean-François Lebas, qui est un des pionniers du rayonnement synchrotron. Emmanuel Gay, qui est un neurochirurgien, et d'autres radiothérapeutes, dont Alexandre Tessier, qui est un jeune radiothérapeute. Bien sûr, le SRF différent... associer ingénieurs, physiciens, avec des rôles plus ou moins importants, mais les rôles de sécurité ici par Paul Berwens, de coordination ici par Michel Régnier, ou de fabrication du code ou de contrôle du code par Christian Demoz et Yolanda Prezzado ont été vraiment importants. Bien sûr, le rôle des physiciens médicaux, dont Jean-François Adam, qui est présent ici d'ailleurs, qui était aussi mon ancien thésard et maître de camp en physique, et a eu un rôle critique dans cette affaire. Hélène Hénome aussi, qui a été très importante, mais on reparlera d'elle dans les développements, qui parle de radiothérapie avec nanoparticules, dont le but principal, c'est de démontrer la faisabilité et la sécurité d'un traitement par rayonnement synchrotron sur des patients avec un suivi à moyen terme. Donc, plusieurs étapes ont été définies. Chaque étape a été pensée pour contenir un nombre minimum de patients, et une étape peut commencer quand la précédente est validée. Donc, pour l'instant, on en est à 6 patients. On a validé 2 premières étapes qui consistaient à vérifier, à mesurer la cinétique des produits de contraste dans la tumeur, à délivrer malgré tout une dose de radiothérapie locale relativement faible. Mais essentiellement, il fallait s'assurer qu'on savait reproduire ce qu'on avait vu sur les scanners au CHU, et donc reproduire sur place une injection d'iode correcte. Donc ça, c'est aussi un travail important qui a été réalisé avant les premiers patients, donc sur des essais de cinétique de produits de contraste iodés. Une étape critique, oui. Ces étapes 1 et 2 sont bouclées pour l'instant, mais on va passer à une étape où on va augmenter la dose de diode et de rayons X, c'est-à-dire être plus agressif et plus curatif, si possible, ou du moins passer le côté de la dosimétrie importante avec le synchrotron plutôt qu'avec les machines conventionnelles. Une étape suivante sera l'injection par voie veineuse de sel de platine, qui devrait coloniser la tumeur aussi de façon assez efficace. Et si on y arrive, et ça dépend si la méthode et la technique sera implantée à ce moment-là, on fait tout pour, mais ça reste quand même aléatoire, essayer d'implanter la méthode dite de CED, donc d'injection directe dans la tumeur du produit à base de platine, qui devrait permettre d'avoir un effet de combinaison radio-chimio-thérapie tout à fait pertinent. Donc, si tout ça se fait sans trop d'incidents, 50 patients seront recrutés. Ici, les premiers patients réalisés, où on peut comparer les deux types d'images, celles qui sont réalisées ici au CHU comparées à celles qui ont été réalisées sur la ligne médicale. Donc, en fait, ce sont des images obtenues en rayons X avec injection de produits de contraste. On pourrait les comparer plus dans le détail, mais on sait faire de la tomodensitométrie fine sur la ligne médicale. Ces travaux, donc, je vais montrer quelques diapos des patients qui ont été présentés à un congrès de cancérologie assez récemment. Donc, les tout premiers patients, vous voyez ici une tumeur qui prend le contraste, ici sur cette jeune femme qui en fait avait un mélanome avec des métastases de mélanome un petit peu partout dans le cerveau, et même une méningite carcinomateuse avec des traces de mélanome un petit peu dispersées. Donc, on a traité cette tumeur-là après injection. Donc, on voit qu'ici, on a 3-4 mg par millilitre d'iode dans la tumeur. Donc, tout a été centré ici. Cette patiente a eu une hémorragie dans les suites, et donc a pu. Le traitement n'a pas évalué le traitement au long cours, puisqu'elle est morte 2 mois après. Donc, ça, c'est un traitement. L'indication était peut-être discutable, mais bon, c'était quelque chose qu'il fallait essayer, et qui était positif, en tout cas pour nous. Ici, c'est un autre patient qui a été réalisé avec ici un traitement donc sur une métastase de cancer du poumon, avec de très nombreuses cibles. On a ciblé un point dans le cerveau, et donc là, on a aussi obtenu une concentration d'iode assez intéressante, et qui a permis d'augmenter la dose locale. Donc ça, la tumeur était stable 2 mois après, mais dans l'intervalle, sa maladie a continué. 3 autres nouvelles métastases sont apparues. Ici, un autre patient avec une métastase donc d'un cancer du sein, avec une. Ici, vous voyez les images en tomodensitométrie conventionnelle. Ici, l'image obtenue au CHU. Et en bas à droite, un suivi temporel ici de cette tumeur avec une certaine. Je vais revenir, pardon. Avec une certaine diminution de, vous voyez, de cette prise de contraste, en sachant quand même qu'on est ici sur une image IRM. Là, ici, il s'agit de scanner, donc on n'a pas tout à fait les mêmes cinétiques. Enfin, bon, cette patiente, elle est relativement bien. On a fait d'autres patients ici dans la suite, avec ici cette métastase qui a été donc ciblée avec cette même méthode, avec une dose de 2 à 3 mg par millilitre dans la cible. Ici, on voit ce que 2 mois plus tard, on voit apparaître un centre nécrotique, dont un certain effet, une stabilisation, on va dire, importante sur ce patient-là. Ici, on fait un autre patient qui a été imagé ici en IRM. Ça, ce sont des images IRM. Et donc, traité avec. Ici, on voit l'image en tomodensitométrie. Donc, ce même patient a été revu à 3 mois avec vraiment une perte de substance tumorale relativement importante, enfin une diminution en tout cas de ce diamètre tumoral. Donc, ces patients n'attendaient pas d'effet thérapeutique, clairement. On n'était pas dans une. Le but, quand même, il ne faut pas oublier, c'était vraiment un essai de faisabilité et de sécurité. De ce point de vue, je pense que le but est atteint. On a démontré qu'on pouvait faire une radiothérapie sur des patients dans des conditions de maîtrise de la dose et délivrée, qu'il s'agisse de diodes ou de rayons X, tout à fait correct. Ici, une vue de la salle de contrôle avec Michel Régnier, qui était notre coordinateur, Jacques Balosso, notre investigateur principal radiothérapeute, Jean-François Adam, Pecqua Sorti, aussi un pynchronnier des applications médicales du synchrotron, Hélène Hélôme et Christian Nemos, qui étaient ingénieurs. Ingénieur chargé du logiciel de contrôle. Ici, c'était notre première patiente avec donc ce mélanome qui plus tard a saigné. Chaque case qui apparaît ici en vert signifie qu'un des pores a pu être réalisé convenablement et donc l'irradiation est satisfaisante en termes de dose et de sécurité. Au-delà de l'essai clinique qui est en cours, la recherche préclinique a continué et je vais vous parler de quelques éléments développés spécialement par Hélène Hélôme mais qui concernent l'utilisation d'éléments lourds médiés par des nanoparticules. Et on va voir ces choses-là à l'échelle cellulaire et à l'échelle tumorale. Donc, ça, c'est un papier assez récent qui fait état de photoactivation de nanoparticules d'or dans le traitement des gliomes. Réalisé donc sur la ligne sous la direction d'Hélène. Donc ici, on fait des tests sur des cellules, c'est-à-dire on irradie des cellules en présence de solutions de nanoparticules d'or, comme ici, avec ces nanoparticules de 1,9 nanomètre, ou celles-ci, ces nanoparticules de 15 nanomètres. On voit que selon la dose délivrée, on a une augmentation de la dose, c'est-à-dire une survie qui baisse par rapport au contrôle. Et ici, cette baisse de survie est très importante avec cette nanoparticule qui est très petite. Et ici, elle est plus faible. Donc, fort de cette information, on a lancé un essai préclinique sur les tumeurs de rats. Manque de chance, ces nanoparticules se sont avérées extrêmement toxiques et on n'a pas fait grand-chose puisque les rats étaient morts avant de pouvoir être traités. Donc, on a eu un effet de toxicité majeur avec cette taille de nanoparticules alors que ces nanoparticules ici était tout à fait acceptable et on a pu réaliser un essai thérapeutique. Donc, cette distribution des nanoparticules, il est bon de la connaître. Et ici, par exemple, vous avez en imagerie la distribution sur une tumeur de rat. Donc, à l'intérieur de cette tumeur, on injecte des nanoparticules et on voit qu'on peut localement délivrer ces nanoparticules, réaliser une imagerie et avoir une image de la distribution de ces nanoparticules. Donc, ces nanoparticules, on peut aussi s'assurer de leur localisation en réalisant des images en microscopie électronique. Et c'est ce qui a été fait avec des nanoparticules de 15 nanomètres, où l'on voit la dispersion dans les cellules un jour après l'injection. Et 6 jours plus tard, par contre, on a des amas qui peut-être ne sont pas très favorables à l'effet thérapeutique, mais Nous, on irradiait, il me semble, je crois que c'était dans les 24 heures. Voici les résultats qui sont significatifs sans être extraordinaires. On a quand même une augmentation de la survie lorsqu'on associe nanoparticules d'or et rayons X à basse énergie. Si on utilise un rayonnement monochromatique à 88 keV, donc au-dessus des seuils K de l'or. Donc ici, une étude de survie qui a été publiée récemment, qui reste quand même bien en deçà de ce que l'on aurait aimé voir, c'est-à-dire des survies au long cours, comme on pouvait l'espérer, ou du moins le souhaiter. Donc, pour résumer, les nanoparticules permettent de bons résultats, surtout sur des tumeurs sous-cutanées, mais les tumeurs sous-cutanées, on sait aussi les traiter autrement. On a une augmentation de la dose observée in vitro, qui est claire, des hautes concentrations obtenues in vivo dans la tumeur, ce qui est aussi important. Et sur notre modèle de tumeur que l'on maîtrise bien et que l'on a étudié longuement, ou du moins pendant de nombreuses années, on a une toxicité des nanoparticules qui était vraiment très importante avec des petites nanoparticules de cette taille, donc 1,9 nanomètres. La survie est augmentée malgré tout avec des nanoparticules de 15 nanomètres. Donc il faudrait pouvoir, et là peut-être se tourner vers les chimistes pour qu'ils nous aident à optimiser les temps d'incubation, décider quand est-ce qu'on fait l'irradiation par rapport à l'injection des nanoparticules. Que doit-on faire des doses? Est-ce qu'il faut habiller ces particules, etc. Tout ce qui concerne la biodistribution de ces molécules qui n'a pas l'air tout à fait trivial. D'autres particules ont été utilisées, comme dont vous nous avez parlé tout à l'heure, des nanoparticules à base de gadolinium, qui sont des éléments théranostiques utiles à la fois au diagnostic et à la thérapeutique. Ici, sont utilisés pour faire de l'augmentation de dose locale. Et si vous rappelez de la courbe d'augmentation en fonction de l'énergie, on a retrouvé ces courbes-là sur des simulations, sur des particules qui sont censées se lier à la membrane cellulaire. On voit des pointes de renforcement de dose qui sont très importantes localement. Donc ces choses-là peuvent se vérifier par des simulations adaptées. Donc on a aussi tenté de visualiser en même temps leur distribution dans la tumeur et essayer d'évaluer le volume tumoral. On a constaté aussi qu'on avait souvent une surestimation du volume tumoral lorsqu'on fait de l'imagerie conventionnelle comme à l'iode, et c'est souvent ce qui est utilisé pour définir les volumes cibles en radiothérapie. Donc pour conclure sur cet aspect de radiothérapie par rayonnement synchrotron, en mode stéréotaxique, l'efficacité in vivo est liée à l'efficacité in vitro, mais dépend aussi de la distribution intratumorale, donc volume, concentration, l'image de distribution a son importance. Les nanoparticules semblent efficaces, et le sont sûrement, mais des études de toxicité ou au moins de biodistribution semblent indispensables. Donc ce travail est essentiellement réalisé sous la direction d'Hélène Lhomme, qui est directrice de recherche INSERM, avec des thésards et des associés récents, et toute une équipe aussi qui est spécialisée dans du laboratoire des lésions des acides nucléiques, avec Jean-Luc Ravana qui travaille au CEVA, et ici un certain nombre d'anciens associés, tous anciens étudiants ou post-doc, et quelques médecins qui ont suivi aussi ça d'aussi près que possible. Je vais revenir à la radiothérapie ici par microfaisceau. Donc, sur cet effet dose-volume, et vous voyez ici, je reviens sur cette image quand même, qu'une très forte dose locale ne détruit pas la structure, l'architecture du tissu, alors qu'une dose locale relativement épaisse va détruire complètement ce tissu. Et l'idée a été de réaliser d'utiliser cette possibilité de couper les faisceaux dans le traitement des épilepsies. Pour une raison que j'ignore, cette chose apparaît en gris, alors qu'elle est sombre. Mais bon, vous voyez peut-être ici ce qu'on appelle une transection sous-piale. Donc c'est un geste qui est réalisé par les neurochirurgiens lorsque des épilepsies sont résistantes à tout traitement. Pour casser les voies de diffusion des crises d'épilepsie, le neurochirurgien peut trancher les colonnes corticales pour limiter la diffusion de l'épilepsie, en tout cas l'extension de la crise. Cette méthode est, somme toute, enfin, de l'avis même des neurochirurgiens consultés il y a peu, relativement peu efficace. Et l'idée est de réaliser cette chose-là en utilisant ces faisceaux synchrotrons, mais cette fois-ci en utilisant l'aspect extrêmement puissant du flux de photonique, sans se préoccuper de la longueur d'onde. Ici, on va rester, ce sont des X de basse énergie, mais on peut mélanger de 10 à 300 keV, et on va avoir des profils de doses ici qui sont bien meilleurs que les profils de doses utilisés par le Gamma Knife. Gamma Knife, si je vous rappelle, c'est une machine qui permet de concentrer le dépôt de doses sur des cibles, et c'est à ce jour la machine en clinique qui est la plus précise. Notre dépôt de doses en utilisant le rayonnement synchrotron peut être en fait beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, et soit on entrelace, soit on laisse les faisceaux espacés, on a ce type de dépôt de doses qui est tout à fait pertinent. Donc on a fait une étude avec des résultats préliminaires qui semblaient tout à fait prometteurs, et ce travail-là est poursuivi et a été présenté dans une ANR qui a été démarrée il y a à peine 2 jours à Grenoble, qui associe des neurochirurgiens, des spécialistes aussi, des radiothérapeutes, spécialistes du Gamma Knife. Et donc ici, on a testé le fait que, puisqu'il s'agissait de couper des voies nerveuses, donc on a testé la possibilité de couper les fibres, c'est-à-dire la conduction axonale, à l'aide de faisceaux de différentes tailles. Et on voit ici que si on utilise des faisceaux de 50-25 microns, en fait, ça, ce sont des images d'IRM obtenues par l'imagerie des tenseurs de diffusion. C'est une méthode d'IRM qui permet de tracer les fibres nerveuses, ou du moins d'en définir le pourtour en image. Et lorsqu'on utilise des faisceaux relativement minces, on n'a pas d'effet jusqu'à 50 micromètres. Par contre, si on épaissit un peu plus ce faisceau, à partir de 100 micromètres, avec des doses ad hoc, on arrive à carrément jusqu'à ici 1000 micromètres, ce qui est relativement large. On a un effet de rupture complète des fibres. Donc sur cette base-là, réaliser un essai sur un modèle animal paraît tout à fait pertinent. Et on peut même envisager, je crois, si les premiers essais chez le rongeur sont positifs, de passer à l'homme. Donc ici, pour tester la réalité de cet effet, il faut utiliser des électrodes qui vont analyser et du moins recueillir tous les signaux électriques qui se dispersent dans un état épileptique. On va définir des lieux de tir avec notre faisceau qui va être ici la juxtaposition en fait de 4 mini-faisceaux de 50 microns. On va tirer entre ces électrodes et analyser avant, après, l'effet du traitement. Et on a vu qu'à un mois, on arrivait à diminuer considérablement la diffusion des crises dans le cerveau. Donc on a une baisse de la puissance et de la durée des crises. Ce qui semble tout à fait adapté, en tout cas c'est ce qui est recherché. Ici, sur ce schéma, en bleu, c'est froid, l'activité est plus faible comparé au côté contralatéral. Ce côté a été transecté par des microfaisceaux et la diffusion des crises est vraiment très limitée. On a pu aussi confirmer la réalité de cette radiochirurgie avec des images ici pondérées T1 avec produit de contraste qui permettent de visualiser la trace des microfaisceaux qui donc ici, vous voyez, la dose en grès dans le microfaisceau est très importante. Ici, une coloration hématoxyline, et puis ici, une coloration de la myéline. On voit, en fait, les zones donc ipsilatérales sont franchement lésées. En contralatéral, on n'a que peu d'effets. Et ici, vous voyez, en ipsilatéral, ces cellules ont été détruites, donc on peut supposer que toute structure cellulaire a été détruite sur ce passage-là. En contralatéral, ce n'est pas le cas. Idem pour la myéline. La myéline est détruite là où on souhaitait la détruire, en contralatéral. On garde encore des gaines de myéline fonctionnelles. Et ici, donc, les dommages tissulaires, et on a pu le montrer, sont limités aux transections, ce qui a permis ici de penser à ce développement. Donc, ça, ce sont tous les collaborateurs que remercie volontiers Raphaël Serdu quand il parle de MRT. J'ai limité ici le rouge aux principaux acteurs avec des pionniers historiques, Jean Lessu, qui est un pathologiste à Berne, Daniel Slatkin, qui était physicien à New York. Hans Bladmann aussi, un Suisse aussi, qui a beaucoup contribué. Puis Elke Brouwer-Krisch, qui est une physicienne qui travaille à l'ESRF. Et Raphaël Serduc, qui est chercheur dans mon équipe. Tous ces travaux sont présentés dans différentes situations, dans des congrès qui sont... L'affiche est plutôt sympathique, mais ce sont des petits congrès. On se retrouve chaque 3 ans, chaque 2 ou 3 ans, on va dire à Shanghai, à Grenoble, ou ailleurs, à Saskatoon, en général près des synchrotrons ou pas très loin. Donc ici, les Chinois ont construit un synchrotron il y a peu de temps. On a pu le visiter, c'était tout à fait sympathique. On se reverra tous ensemble pour ces applications médicales du synchrotron à Grenoble dans 2 ans. On commence à présenter les résultats des essais cliniques dans des grands congrès de cancérologie, soit en soumission, soit sur invitation. Et tout ça ne serait peut-être pas aussi pertinent si on n'avait pas le projet de participer à la réalisation d'une source de rayons X de petite taille, c'est-à-dire quelque chose qui est utilisable. Donc ça s'est développé au LAL, le laboratoire de l'accélérateur linéaire sur le plateau d'Orsay, avec une source de X. Non, il ne faut pas dire synchrotron, ce n'est pas du rayonnement synchrotron. Ils vont faire une source de rayons X utilisable en imagerie et en médecine, et à laquelle on a été impliqué au début du projet. La physique, je montre ce schéma, mais clairement, je suis au-delà de mes compétences. Il suffit de faire, semble-t-il, percuter des électrons relativistes avec un faisceau laser et ça crée des photons. Si on sait bien se protéger et fabriquer cette machine, on arrive à avoir des flux suffisants pour faire une utilisation en imagerie et peut-être en radiothérapie, ce qui reste encore à définir. Voilà, ici, la place qu'occupera le premier accélérateur, il faut quand même accélérer les électrons à plus de 6 GeV. Je crois même que c'est 30 GeV, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est des accélérations vraiment très importantes. Donc la radioprotection reste quand même critique. Et d'ailleurs, à l'époque où on a essayé de faire financer ce projet, on était plus ou moins en compétition, mais sur la zone grenobloise, on n'avait pas l'avantage d'avoir un passé de recherche en physique nucléaire tel que celui du plateau d'Orsay, où le système était prêt à accueillir tout ce qui allait être assemblé par la suite. Voilà, moi je travaille dans cette équipe, dans l'équipe 6 de l'Institut de neurosciences de Grenoble, et je vous remercie de votre attention.